Nous abordons aujourd'hui la paracha noire, et dans cette paracha, l'un des sujets mérite d'être approfondi parmi tous les autres. C'est celui que l'on développera ce soir, celui de la vigne de Noé. Noé a choisi de planter une vigne et non pas une autre espèce végétale comestible. Alors, nous allons réfléchir sur tout cela en traitant d'abord du sujet du fruit défendu, puis de la question de l'ivresse de Noé, et enfin de l'initiative d'un des fils de Noé, Shem. Le fruit défendu, un débat se pose dans les sources. Une grande incertitude entoure l'identité de cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et comme Noé a planté une vigne, eh bien, en fait, la vigne, c'est le vin, et le vin, la vigne, en tout cas, c'est un de ses prétendants à être le fruit défendu. Selon Rabbi Meir, selon le Midrash, Noé trouva une vigne rejetée du Gan Eden pendant le déluge et il a planté cette vigne. En soi, c'était une révolution, car la terre avait été maudite. La terre ne devait produire que des épines. Et Noé a réussi à planter un végétal comestible. C'était donc en soi quelque chose de tout à fait remarquable. C'était, peut-on dire, le père de l'agriculture. Revenons à cette vigne et à son symbole, puisque c'est l'un des fruits défendus, donc un des fruits possibles du fameux arbre de la connaissance. Il y a d'autres prétendants. Et si nous ne savons pas lequel est le véritable fruit défendu, eh bien, une raison nous en est donnée. Par Rabbi Yehoshua ben Lévi, qui enseigne que Hachem, Yitbarach Shemo, n'a pas voulu dévoiler quel était cet arbre, afin que ceux qui le voient ne disent pas « Ah, c'est à cause de lui que… » Et Rashi précise « On ne le sait pas, afin que les hommes ne lui fassent pas honte, et ne disent pas « Voilà l'arbre à cause duquel le monde a été frappé. » Donc Rashi reprend les enseignements de Rabbi Yehoshua ben Lévi. De ce fait, il existe diverses traditions sur la nature du fruit défendu. On l'a dit, la vigne, mais aussi la figue, selon plusieurs maîtres. Il est écrit en effet dans la Torah, ils ont cousu des feuilles de figuier et s'en sont fait des pagnes. Et donc, il avait besoin de feuilles, et la plupart des arbres n'ont pas voulu qu'ils prennent de leurs feuilles pour se faire un pagne, mais le figuier l'a accepté. Eh bien, c'était probablement parce qu'il avait mangé le fruit, son fruit, que le figuier a permis qu'ils utilisent ses feuilles. Voilà donc une tradition, la figue. Mais on a encore une autre tradition, selon Rabbi Yehuda, c'est le blé. Dans ce cas, bien sûr, ce n'est pas un véritable arbre, mais ce n'est pas un arbre du tout même, mais c'est un fruit de la terre. Le blé est considéré comme un possible fruit défendu. Et enfin, il reste le cédrat. Le cédrat, c'est-à-dire l'étrogue, qui est identifié comme étant le fruit défendu selon la Mora Rabbi Abba d'Akko, selon le Midrash et selon les rabbins tosafistes qui ont succédé à Rashi. Nous voilà donc avec quatre prétendants. Mais nous constatons de suite que nous n'avons pas cité la pomme. Et tout le monde sait dans la culture occidentale que quand on parle de fruits défendus, on imagine que c'est la pomme. Ce choix, cette information n'est pas partagée par la tradition juive. Le Midrash voit cependant une allusion à la pomme, à cause du parfum de l'habit porté par le patriarche Yaakov lorsqu'il a reçu la bénédiction de son père Yitzhak. On a aussi un rapport entre la pomme et le cédrat, mais la présence de pommes au Gan Eden ne permet pas de conclure qu'il s'agit là du fruit défendu. En fait, on peut essayer de comprendre cette assimilation du fruit défendu à la pomme si l'on connaît un certain nombre de médecins de l'Antiquité, en tout cas un des médecins grecs et botanistes de l'Antiquité, qui s'appelle Dioscorides. Eh bien, ce médecin a écrit un ouvrage et a considéré que les fruits de la famille du cédrat, donc y compris les citrons, il les a nommés pommes de Médie. La Médie, c'est une région du côté de la Perse. Bon, voilà donc pommes de Médie. Eh bien, puisque l'on a parlé de pommes de Médie pour désigner les fruits de la famille de l'étrogue, la confusion s'est faite et on a oublié l'étrogue et on n'a retenu que la pomme. Bon, nous voilà donc en tout cas avec une vigne que plante Noé. On voit tout de suite la perspective. Noé n'a pas planté n'importe quoi. Il était dans un processus pour essayer de rattraper la faute de Adam et de Ève. Mais que se passe-t-il ensuite? Eh bien, un des versets nous dit, je traduis, Noé a bu du vin, il s'est enivré et il s'est découvert au milieu de sa tente. Donc il était dans un espace privé tout de même. Mais de quoi est-il question? Nous voyons déjà un arbre un peu spécial qui vient d'être planté au moment où Noé, un peu de temps après que Noé soit sorti de l'arche. La vigne est plantée et tout amateur de jardin sait bien que quand on plante une vigne, on ne boit pas on ne boit pas le fruit de cette vigne, c'est-à-dire du vin, dans la journée. Bien entendu, il faut que l'arbre s'enracine, la vigne s'enracine, il faut qu'elle se développe, il faut qu'elle produise des grappes, il faut ensuite travailler ces grappes pour les presser, pour qu'elles fermentent de manière à ce que le vin soit produit. Donc tout ça ne se fait pas en une minute. Or là, on a un arbre absolument spécial, on plante un plant de vigne, et le soir même, Noir boit du vin de ce plant-là et s'enivre. Donc on se rend bien compte que tout ça nous parle un peu plus loin de ce qui est dit littéralement. Car bien sûr, la Torah ne s'examine pas selon uniquement le sens littéral. Le sens littéral est valide, évidemment, toujours. Mais de surcroît, viennent d'autres niveaux de signification. Et en l'occurrence, ici, on est obligé de constater qu'au-delà de ce sens littéral, ce pshat, il faut comprendre plus profondément. En fait, il n'était pas question d'une ivresse simple. C'est pas quelqu'un qui est un peu ivre en sortant d'un bar, totalement ivre, la tête lui tourne, il tombe par terre, il s'endort. Non, il n'est pas du tout question de ça. L'ivresse en question nous renvoie au fait que le vin se dit en hébreu yayin, c'est-à-dire yod, yod, nun. Or, il existe un procédé d'interprétation que l'on développera la semaine prochaine en citant disons, l'infini de la Torah et toute la boîte à outils de l'interprétation de la Torah écrite, qui est celle que nous a donnée la Torah orale. Et parmi ces méthodes d'interprétation, nous avons la Gematria. Eh bien, Yayin correspond à Yod Yod Nout final, c'est-à-dire 10, 10, 10 plus 10 plus 50. On est donc à la même valeur que Sod, Samar, Vav, Dalet. Or, Sod signifie secret. Nous voyons qu'il y a donc, selon le procédé d'interprétation rabbinique de la Gematria, une relation étroite entre le secret et le vin. Cette ivresse était donc quelque chose d'autre. Noir n'a pas bu pour boire. Il a bu pour tenter de lever la malédiction qui pesait sur la terre. Il voulait faire mieux encore, parce que la malédiction, il l'avait levée. Son plant de vigne a pris. Il a fructifié. Donc, on peut dire qu'il a déjà réussi cette étape considérable. Mais il y avait autre chose, il avait une autre ambition. Il voulait faire mieux encore, il voulait restaurer le monde dans son état édénique originel, c'est-à-dire avant la faute d'Adam, avant les conséquences de la faute d'Adam. Alors, Noir a rencontré des difficultés. Ce n'était pas une tâche facile, bien sûr. C'est une tâche mystique particulièrement complexe. Il a tenté, il n'a pas réussi. Et c'est cela que nous explique le sens littéral. Il a pressé le vin, et il a bu. Et ben, en fait, il était dans un processus de compréhension et de production d'un tikkun. Tikkun, c'est une réparation. Il voulait réparer la faute d'Adam, mais il n'a pas pu tenir debout à cause de son ivresse, symbolique, disons. Il a voulu sonder la faute du premier homme, il a voulu comprendre, il a voulu en débarrasser le monde, mais il n'y est pas parvenu. C'est ce que nous enseignent nos maîtres. On a donc là une allusion au danger de rechercher les niveaux supérieurs de la mystique juive sans la longue préparation requise. Noir n'était pas n'importe qui, c'était le tzaddik dans sa génération, il était capable de faire un certain nombre de choses. Il a levé la malédiction de la terre, déjà, c'était une chose considérablement importante, mais il a tenté, donc, comme on le voit, de faire un tikkun général pour supprimer la faute d'Adam et ses conséquences. Cette tentative de Noir, qui a donc échoué, puisque l'ivresse nous signifie qu'il a donc échoué cette tâche mystique qu'il avait l'ambition de réussir. Cette tentative a été renouvelée au cours des siècles. Et nos maîtres nous racontent, la Torah nous raconte les mésaventures de Nadav et d'Abihu, les fils d'Aaron, qui moururent. Au temps de la Mishnah, nous avons des Tanaïm importants, Ben Azaï, Ben Zoma, Acher et Rabbi Akiba, qui, nous dit-on, sont rentrés au Pardès, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans ce niveau supérieur de compréhension, etc. Ils avaient une démarche mystique qui voulait donc, et qui avait l'ambition de procéder à un tikkun, le Mashiach arrive et c'est terminé. L'histoire de la longue réparation de cette faute aurait pris fin. Mais là aussi, nous voyons que la tâche n'est pas facile. Ils n'ont pas eu une ivresse comme Noé, ils ne sont pas tous morts comme Nadav et Abihu, mais Ben Azaï, lui, est mort. Ben Zoma est devenu fou. Aher en a perdu la foi. Et Rabbi Akiba, seul, en est sorti indemne. Ainsi, nous avons une démarche mystique qui n'a pas abouti. Alors, après ce sujet de l'ivresse de Noir, nous avons le sujet qui suit tout naturellement, c'est la faute de Ham et de Kénaan. Ham, c'est un fils de Noir. Et Ham, c'est le père de Kénaan. On nous dit que, au-delà bien entendu du sens littéral du récit biblique, que Noar et son fils Shem visaient eux aussi, enfin Shem aussi, la restauration de la condition humaine adamique antérieure à la faute. Mais Ham et son fils Kénaan ne partageaient pas de telles aspirations. Après le déluge, ils entendaient retrouver le monde ancien. Il craignait que la nouvelle descendance de Noir, née après son réveil et sa tentative de réparation, aurait constitué une souche sainte, c'est-à-dire des descendants de Noir après le déluge, qui auraient été conformes au projet divin, libérés de la soumission à l'ordre naturel imposé à Adam après sa faute. Bref, il fallait pensait-il, un quatrième fils de Noar qui aurait été une sorte de magyar, si l'on veut. En faisant en sorte, car ce qui s'est produit, c'est que les Ram est intervenu, au sens littéral, disons, pour se moquer de son père, de son Kenaran s'est moqué de son grand-père, mais au-delà de cela, ils ont fait bien plus, ils l'ont empêché d'avoir un enfant supplémentaire. Et de ce fait, le Midrash de Rabbi Shimon bar Yochai nous explique que, à cause de la faute de Kenaran et de son père Ham, les malédictions se réveillèrent sur le monde après le déluge. De ce monde d'après le déluge a renoué avec la faute. Mais, et c'est là où arrive notre conclusion, l'initiative de Shem. Shem a pris avec son frère Yafet, il y avait trois frères, hein, Shem, Ham et Yafet. Shem a pris le manteau et tous les deux, ils ont pris un manteau et tous les deux l'ont mis sur leurs épaules et ont marché en arrière pour ne pas voir la nudité de leur père. Et comme les visages étaient en arrière, donc ils ne voyaient pas du tout Ham, ils ont pu le couvrir de manière décente. L'initiative venait de Shem. Il s'est donc distingué d'entre ses frères. Il a été distingué d'entre ses frères par Hachem. Et lorsque Noar s'est réveillé de son ivresse, il a compris ce que lui avait fait son fils, Ham, et donc Kenaan également. Et Noar a dit, Kenaan est maudit. Serviteur de serviteur, il sera pour ses frères. Et en fait, Rashi explique, à cause de toi, je n'aurai pas de quatrième fils pour me servir. Maudit soit donc ton quatrième fils qui sera asservi aux descendants des frères aînés, Shem et Yafet. Sur eux repose maintenant la charge de me servir. Le service dont il est question ici semble bien être la réalisation de son projet de restauration de la condition humaine d'avant l'expulsion du jardin d'Éden. Pour Noar, ce projet est devenu irréalisable. Il lui manquait un quatrième fils. Et il lui fallait donc maintenant prolonger en quelque sorte son projet de restauration dans les générations suivantes, mais pas dans toutes les générations, dans la postérité de Shem. Et bien entendu, dans la postérité de Shem, nous connaissons tous cette histoire-là, eh bien, on va trouver Abraham qui va à son tour engager une réparation du monde qui s'étagera sur toutes les générations suivantes, de celle de son fils Yitzhak, celle de Yaakov, celle du peuple hébreu en définitive. Alors, à travers Israël, l'humanité est devenue à nouveau en mesure d'engendrer le Mashiach. Mais bien entendu, il faut du temps, il faut que du temps s'écoule à travers toute une série d'actions, depuis tout le service divin, respect des mitzvot, etc., etc. Dans cette perspective, on comprend mieux pourquoi les Cananéens ont tenté d'empêcher Abraham de remplir sa mission. Ils se sont établis sur la terre attribuée aux descendants de Shem, promise ensuite à Abraham, descendant de Shem, et aux Bnei Israël, descendant de Shem. La terre devait être à Shem et à ses descendants, mais dès qu'Abraham et son camp sont sortis de Haran pour aller vers la terre de Canaan, eh bien, on lit: ils viennent en terre de Canaan à Shechem. C'est là où a été donc Abraham, mais le verset précise: et c'est alors, en ce temps-là, que le Cananéen s'installa sur la terre. Rashi enseigne clairement: le Cananéen était à cette époque-là occupé à conquérir Eretz Israël, qui appartenait à l'époque aux descendants de Shem. D'ailleurs, on lit clairement dans la Torah, et Malkitsédek, roi de Salem. On voit bien Malkitsédek, c'est Shem, roi de Salem, c'est Jérusalem. C'était en fait le Shem qui était à Salem, l'ancien nom de Yerushalayim. C'est d'ailleurs la première mention de Jérusalem dans la Torah. À cette époque-là, le pays appartenait bien aux descendants de Shem. Et ensuite, quand les Hébreux ont conquis le pays, ils ont rétabli en définitive ce qui était prévu. Ils n'ont repris que leurs droits. D'ailleurs, dans un endroit dans la Torah, Yosef dit clairement, non pas terre de Canaan, mais terre des Hébreux. Voilà. Donc, nous avons à peu près fait le tour de ce sujet particulier. Je vous remercie pour votre attention.